écoutes Radio Gironde. Et bonsoir à tous et bienvenue en direct des locaux d'Aquilonet sur Radio Girol, l'émission autour des cultures libres. On va commencer par vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année 2019 avec plein de choses autour du logiciel libre. Alors on l'espère cette fois pour de vrai, 2019 sera l'année du Linux sur le desktop, sur les machines utilisateurs. Enfin on l'espère mais pas trop.
Faut bien un peu de concurrence.
Tout à fait. Ce soir nous sommes avec Shin. Bonsoir Shin.
Bien le bonjour.
Et nous sommes avec Duponin. Bonsoir Duponin.
Bonsoir, c'est bien moi, c'est Duponin, le seul et l'unique.
Voilà, vous avez compris, ça va un peu rigoler ce soir. Alors, une fois n'est pas coutume, en fait, nous avons une émission complètement à l'arrache avec des sujets définis à la dernière minute. Nous avons cette fois-ci du matériel, nous avons investi dans du matériel, des micros, des câbles, mais nous n'avons toujours pas de casque, donc aucun retour. Donc on ne sait pas si le son est bon ou pas, si ce n'est... grâce au curseur que je vois à l'écran. Donc, si le son est un peu ripou, si ça crache ou si ce n'est pas assez fort, ben ne lui dites pas parce qu'on n'est même pas sur l'IRC, en fait, ou pas beaucoup. Donc, voilà. Au programme de ce soir, nous allons parler de s'élever dans le domaine public. Nous allons écouter, du coup, une musique qui s'est élevée dans le domaine public. Hein, on espère enterrer certains morceaux, mais il y en a, ils s'élèvent dans le domaine public et ils sont disponibles pour tous. Nous allons parler ensuite de chatons, justement, avec nos deux invités du soir, Shin et Duponin. Et ça sera tout. Ça sera une émission très, très courte parce qu'on n'a pas grand-chose à dire, étant donné que c'était les fêtes de fin d'année. On en a tous mangé comme des gros porcs. On a bu et du coup, on n'a pas eu le temps de préparer l'émission.
Comme d'habitude.
Et puis ensuite, on a profité des cadeaux de Noël. On a geeké comme des malades et on n'a pas préparé d'émission, malheureusement. On va quand même commencer, comme d'habitude, par l'agenda, même si notre petite image nous manque un peu parce que c'est sa partie à elle. À l'agenda, deux petits trucs. Unbi fait sa permanence le 1er février, le samedi 1er février. C'est un samedi, le 1er février ? Je ne sais même plus. Le 1er février. C'est un vendredi, pardon. Cette fois-ci, ça ne sera pas au Pulse, mais ça sera à l'école primaire du Burk. 12 rue du Général Végan à Mérignac. Ça sera dans la salle informatique de l'école élémentaire de 19h à 21h. Nous avons aussi une install party à libre ouvert à la médiathèque Jacques Ellul par La Bulle, comme d'habitude. Ça aura lieu du coup 21 rue de Camponac à Pessac. Il y a aussi, et c'est samedi qui arrive, le 12 janvier. Et le 19 janvier, nous aurons encore à Libre Ouvert, mais cette fois-ci à la médiathèque de Mérignac. Ce sera sur la vidéo logiciel libre et format ouvert. Voilà au niveau du programme. On commence aussi, comme je vous l'ai dit, notre premier sujet. On va parler de musique qui s'élève dans le domaine public parce que ça y est, chaque 1er janvier, pardon, certaines musiques passent dans le domaine public et sont librement téléchargeables et réutilisables pour vos créations personnelles. Simage a repéré, nous a envoyé un petit article de FIP qui, sur le site internet de FIP qui parle de ces perles qui tombent dans le domaine public en 2019 pour ne pas oublier qu'effectivement... quelques années, pratiquement un siècle après la mort de l'auteur, les titres sont disponibles pour tous, sans plus aucun copyright, et vous permettent de non seulement les utiliser, de les faire découvrir aux plus jeunes et parfois aux moins jeunes, et de les réutiliser dans vos créations librement. Et du coup, pour fêter ça, je vous propose un petit morceau de jazz. Le morceau, alors attendez, s'appelle que je le retrouve. Le morceau s'appelle... j'ai perdu le fil.
Encore une émission bien préparée.
Exactement. Jelly Roll Morton, c'est par King Porter's Tom. Alors, je vais vous retrouver l'année parce que là, j'ai effectivement gardé le petit site internet qui va bien.
Dis donc, pour meubler, c'était bien
fort. Ouais, je sais, je suis très très fort, mais... Ça a été enregistré en 1923. Oui, c'est ça, 1923. Et du coup, c'est disponible directement. J'ai trouvé le morceau sur, sur l'archive.org, qui, rappelons-le, est une espèce d'archive d'Internet et qui permet de trouver beaucoup de choses libres. Notamment, vous avez une petite section qui s'appelle Live Music Archive, qui permet de retrouver des morceaux qui sont libres de droit ou qui sont tombés dans le domaine public. Et donc, je vous le propose, le morceau de King Porter Stomp, Jelly Roll Morton, sur Radio Girolt.
You're listening to the fucking Radio Girol.
Girol Radio Station. Et nous voilà de retour. Alors, vous nous écoutez sur du coup le direct, le site internet de Girol, ou sur directement le flux de radio.girol.org. Vous nous écoutez aussi sur Radio Station Essence.
La radio à contresens.
Voilà, donc, comme je vous le disais en introduction, nous sommes ce soir avec Duponin et Chine et nous allons parler de chatons. Alors du coup, Duponin, qu'est-ce que c'est qu'un chaton, mis à part un animal qui fait miaou ?
Un animal même très mignon. Le chaton est un mouvement lancé par Framasoft, qui est le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires, où des personnes, qu'ils soient à la fois particuliers ou associations, voire même des entreprises, peuvent mettre à disposition à des gens, des services, que ce soit de façon gratuite ou payante.
Et surtout qui respectent l'utilisateur.
Oui, avec une certaine éthique qu'ils doivent respecter, qui est plus ou moins dans l'âme des chatons, et qui permet de assurer aux utilisateurs que ce n'est pas, par exemple, nos monsieur Méchanger ou F qui obtiennent toutes nos données.
Et qui les monnaient.
Par exemple, une des preuves, que doivent faire les utilisateurs de chatons, enfin les hébergeurs et ceux qui maintiennent des chatons, c'est de ne pas utiliser des services qui vont compromettre les données d'utilisateurs. Par exemple, il est déjà arrivé que des chatons aient sur leur site internet un script Cloudflare qui était présent et sont un petit peu fait taper sur les doigts parce que Cloudfront, était pas forcément très sympathique avec les données utilisateurs.
D'accord, donc le principe, c'est d'essayer de créer des services qui donnent confiance en l'utilisateur et qui surtout ne monnaient pas leur vie privée.
C'est ça.
Alors, est-ce que tu peux nous... D'où est venue l'idée de... Enfin, à qui doit-on la création des chatons ?
Ben, Framasoft a lancé cette idée, ce petit mouvement, il y a quelques années. Je me souviens plus de la date.
2014, il me semble, de mémoire.
Voilà.
Merci, Chine.
En soi, c'est le projet a été initié en 2014 de mémoire dans leur projet de dégoogleisation Internet qu'ils avaient lancé il y a déjà ça fait peut-être plus longtemps. Et dans ce projet-là, ils ont monté eux-mêmes leur service, sauf que ils ont remarqué que si on voulait faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à ça, si tout le monde venait chez Framasoft, on revenait au même problème, c'est que une seule entité avait tous les droits. Donc ils se sont dit, si nous on peut le faire, pourquoi pas proposer à d'autres gens qui ont les capacités de proposer ces services, et eux ils se sont dit on va essayer de faire un catalogue pour permettre aux gens qui veulent chercher ces services-là libres, éthiques et choses comme ça, de trouver un catalogue, voire avec des informations transparentes. Donc pour se mettre sur le catalogue, on doit préciser si on est une asso, un collectif, une personne, quel type de paiement on va faire, enfin voilà.
Quel type d'hébergement on a, par exemple, si c'est notre propre machine qu'on héberge chez nous, ou bien un dédié ou un VPS qu'on loue chez un hébergeur de type OVH ou Online ou Herzner, par exemple. Pour en citer plusieurs.
Et donc, votre idée à vous, c'est de créer un chaton ici sur Bordeaux ?
C'est ça. Moi, j'ai envie de mettre à disposition mon propre matériel à des personnes. Comme ça, c'est une petite marque de confiance. Et que la donnée, on sait exactement où est-ce qu'elle est.
Donc, en tant que, administrateur d'un serveur chaton, quels sont les enjeux, quelles sont les difficultés et les enjeux ?
Ça dépend, il y en a plusieurs. Il y a déjà d'un point de vue financier, parce que même par exemple, si on n'est pas forcément chaton, héberger ses propres services coûte plus cher que utiliser les solutions faciles, mais qui on paye avec notre propre information. Il y a aussi les problèmes de devoir gérer des personnes ou. Comme les gens rejoignent notre service, on doit les aider si la maison a un problème. Ou alors on ne les aide pas, mais on n'est pas forcément très sympathique. Ça peut être marrant 30 secondes, mais... après, ça va être tout simplement de déployer les services qu'on ne connaît pas forcément ou qu'on a envie de tester.
Et toi, du coup, quel serait votre rôle à chacun ? Pour toi, Chine, quel serait ton rôle au sein du chaton ?
Après, on commence un peu les idées, on réfléchit quelles sont les infras. Par exemple, est-ce qu'on fait chacun un chaton et limite on les interconnecte pour faire en sorte que l'un soit la backup de l'autre ? C'est le problème, c'est que comme on nous laisse beaucoup le choix tant qu'on respecte la charte chaton, il faut poser le pour et le contre. Moi, je sais que j'avais prévu de monter ces services pour ma famille, donc je me dis, tant qu'à faire, pourquoi pas le proposer à d'autres personnes ? Voilà, c'est une étude à faire, c'est voir quels services on veut mettre en place, quels sont les plus intéressants, qui seront les mieux demandés. On a plein de facteurs qui vont faire qu'on va choisir telle ou telle chose.
C'est la chance que ta famille accepte. Moi, je propose ça, ils refusent tous.
Moi, ma famille a accepté tout bêtement parce que ma mère voulait sauvegarder les photos, sauf qu'elle a voulu commencer à les mettre sur Monsieur G. Et Monsieur G, il a dit que à partir de 10 gigas, il fallait payer en plus. Sauf que moi, je lui ai dit, j'ai déjà le service pour mon utilisation personnelle. Je peux te laisser de l'espace sur mes serveurs à moi que je paye tous les mois pour te laisser de la place. Et à force d'ouvrir mes services à ma famille, je me suis dit, autant étendre à d'autres.
Et du coup, le principe, ça serait chacun d'héberger ça chez vous derrière votre connexion à Internet ou de mettre ça dans un data center, par exemple, le data center associatif d'Aquilonet qui est juste au-dessus de notre tête. Ou dans un data center type Cogent en prenant des VPS chez un fournisseur de solutions VPS.
Ça dépend de beaucoup de choses, déjà ce qu'on veut. Après, par exemple, si on utilise le data center d'Aquilonet, déjà on est dans une structure qui est éthiquement et plutôt bonne. On est sûr qu'ils ne vont pas nous bloquer d'accès à Internet, ils vont bien respecter la neutralité. Si on passe chez un hébergeur autre, plus classique, le problème c'est que notre donnée on sait pas forcément où est-ce qu'elle est. Contrairement par exemple, moi, déjà l'architecture que j'ai chez moi, si quelqu'un, par exemple, a un problème, il veut me dire, je veux savoir, il m'a donné, bah, je peux limite l'emmener dans ma chambre ou à côté de mon serveur et lui dire, bah, voilà, tes données, elles sont là, si tu veux, je te les sors tout de suite et je les supprime devant toi. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut derrière et on a plusieurs possibilités qui s'offrent devant nous.
Pour ma part, moi, je sais que j'avais déjà mon serveur chez, je vais dire le nom, hein, chez Online. Donc, j'ai pris ce parti, je suis chez Online depuis longtemps, ils ne m'ont jamais fait de défaut, ils ne m'ont jamais posé problème. À chaque fois que j'ai posé des questions, ils ont toujours été là. Et jusqu'à maintenant, ils ne bloquent rien, ils sont très honnêtes à ce niveau-là. Donc, pour le moment, je pars chez Online. Si un jour, je vois que dans leurs conditions générales, bah, ils font quelque chose qui va à l'encontre de moi, ce que j'ai besoin, bah, j'irai voir chez quelqu'un d'autre, qui le net ou d'autres.
Est-ce qu'héberger ça chez soi, derrière sa connexion, qui plus est, je ne sais pas si tu as une connexion fibre par exemple ou juste à ADSL, mais héberger un chaton chez soi derrière une connexion qui n'est pas forcément, qui n'est pas une connexion professionnelle, on ne peut pas garantir qu'elle soit en ligne 24 heures sur 24 avec du matériel personnel, qu'on ne peut pas garantir aussi qu'il soit 24 heures sur 24, est-ce que ça peut poser problème ?
Ça peut poser problème, par exemple, des services peuvent tomber si on sépare les services. Si certains services sont donc hébergés chez moi et que chez moi ça tombe, ben, ces services ne seront plus disponibles. Mais après, si on vient séparer justement les services entre Shinsaber et moi, ben, certains services seront quand même tout le temps disponibles selon les défauts qu'il y aurait. Après, je possède une fibre optique maintenant, donc niveau bande passante, j'ai plus trop de soucis à ce niveau-là. Mais ça peut toujours arriver des défauts, par exemple la fibre qui s'est coupée, une coupure internet, électrique.
Après, ça, on a vu des très gros type OVH se retrouver avec une coupure électrique générale de toute leur arrivée électrique. Donc j'ai envie de dire que ça soit chez un particulier, la probabilité que ça arrive est plus grande, mais si la personne fait attention, ne fait pas de bêtises particulières, normalement je ne vois pas pourquoi il y a un souci. Après, moi, pourquoi je préfère le faire sur un serveur chez Online, c'est que Online, comme c'est eux qui hébergent le serveur, ils ont une partie juridique qui sera gérée de leur côté si j'ai un problème avec les données que j'héberge ou choses comme ça. Ce qui peut être aussi un avantage de le faire chez un hébergeur, c'est qu'on se dédouane d'une partie des risques.
De la même façon que mettre en place une infrastructure que l'on maîtrise de A à Z veut dire aussi créer une architecture la plus résiliente possible pour pouvoir fonctionner en continu. Et notamment, je pense, on a parlé de la connexion Internet qui pouvait tomber, mais ça peut être un disque dur qui crame, une machine, une alimentation électrique qui arrête de fonctionner. Est-ce que ce n'est pas justement extrêmement stressant? Surtout que dans l'idée, vous ne créez pas un service pour vous. On peut très bien penser que...
Si, à la base, c'est pour nous, mais on veut aussi le partager aux autres.
Mais du coup, est-ce que ça mène pas une contrainte qui est relativement forte de comment, enfin, j'ai peut-être, je m'exprime mal, mais
du point de vue du consommateur qu'on va héberger, on leur doit une certaine neutralité, donc on va leur dire qu'est-ce qu'on leur met à disposition, quels sont les moyens utilisés. Et c'est vrai que, en tout cas, moi, dans mon ressenti personnel, je me dis, il va falloir que je sois carré, par exemple, pour faire une backup de mes services, pour me dire, si le serveur principal y tombe, que j'ai toujours un autre endroit où les données sont disponibles, même si je leur dis, voilà, si le serveur tombe, il faudra attendre que je remette un nouveau service en route. Ça peut prendre du temps, mais que leurs données ne seront pas perdues. Par exemple, ça, moi, je le ressens beaucoup, ce poids de je fournis un service, donc je me leur dois de le sécuriser, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de perte pour leurs données. Par exemple, si on leur héberge leur mail, perdre ses mails, ça ne serait pas top.
Effectivement, mais est-ce que justement, ce n'est pas un défi technique de pouvoir soi-même, avec ses petites mains, mettre en place une architecture qui serve à d'autres et donc se donner les moyens, et donc relever le défi de techniquement de créer l'infrastructure la plus aboutie possible que l'on propose, non pas à des gens que l'on connaît, mais à des gens des parfaits inconnus.
Je sais pas, ça dépend tellement des ressentis des gens. Je sais pas trop comment. Moi, je sais pas. Là, je sais pas trop quoi répondre.
Moi, je vois plus ça comme un défi technique et personnel à relever, qui est un peu excitant de pas découvrir l'inconnu, mais de se dire que des gens comptent sur moi, donc il faut que je fasse des bonnes choses.
Alors, votre projet de chaton, il en est qu'au début. Est-ce que vous avez un planning?
un planning pourquoi de quand est-ce qu'il sera disponible?
Quand est-ce qu'il... Alors, oui.
Alors, on m'a dit que j'étais pas motivé. On m'a dit, fais-le pour mars. J'ai dit, d'accord, donc je vais le faire pour mars. C'est mon objectif.
C'est moi, après, je me suis pas mis d'objectif. Comme ça, je me dis, si à un moment, j'ai un problème, je veux prendre mon temps pour le faire. Je préfère me laisser le temps. Par contre, une fois qu'il sera mis en place, ben, là, on aura une obligation, ben, de, s'il y a un souci, de le régler vite.
Mais du coup, on a parlé effectivement du poids qui pouvait peser sur les épaules d'un administrateur système qui gère ce genre de service, surtout face à un public, à des usagers. Est-ce que les chatons ne prévoient pas une espèce de contrat moral entre l'usager qui, effectivement, s'il utilise des services en général pour un coût assez intéressant, voire pas de coût du tout pour certains, un service qui respecte ses données, lui aussi doit respecter l'administrateur qu'il y a derrière, enfin, les personnes qu'il y a derrière ce service, et s'attendre à ce que de temps en temps, il y ait peut-être un service qui fonctionne pas à 100% du temps, mais 99% du temps.
Moi, j'ai envie de dire, c'est un peu le prix à payer, malheureusement, souvent pour les services qu'on veut éthiques. C'est sûr, par exemple, on appelle une grosse infrastructure de plusieurs milliers de serveurs qui sont tous redondés avec une quantité de disques durs représentant des années de visionnage de films. Mais c'est faut savoir vraiment à quoi ce qu'on veut derrière.
Après, faut savoir que le collectif Chaton a mis en place une charte éthique justement et un manifeste que normalement les hébergeurs s'engagent à respecter, qui leur met des points d'honneur, toutes les bonnes pratiques à avoir, et pour essayer de faire en sorte que chacun soit dans le bon droit et il n'y ait pas de problème ou de litige entre les différents parties.
Mais du coup, mettre en place effectivement une charte éthique pour l'hébergeur, c'est bien, mais personnellement, je conçois plutôt un service éthique comme une suite. Les obligations ne sont pas que dans un sens, c'est-à-dire que le client doit, on ne peut pas parler du client, je préférerais dans ce cas-là parler du usager, mais se doit aussi de respecter une certaine charte dans ce qu'il peut demander ou de ce qu'il peut obtenir d'un chaton.
Mais en soi, ça c'est le chaton au moment de l'inscription qui doit mettre des points sur les règles à respecter pour avoir le droit d'utiliser le chaton. Parce qu'on reste quand même une personne ou une entité si c'est une asso, qui se porte le droit de, ben, si on fait des choses qui nuisent au chaton, ben, de dire ben, on vous retire du projet parce que vous faisiez trop de bêtises. C'est, voilà, après, c'est, si on veut quelque chose d'éthique, il faut que de l'autre côté, on reste éthique en tant qu'usager du service. En tout cas, moi, c'est la façon dont je le ressens. Donc, normalement, chaque chaton met à disposition au moment de l'inscription un peu les CGU, on va dire, du service.
D'accord. Bon, de toute façon, on essaiera de vous prendre des nouvelles de vos chatons.
De l'avancer.
Ouais, il n'y en a qu'un seul, ils n'ont pas plusieurs. Hein.
Enfin, moi, je compte faire le mien pour ma famille et choses comme ça, et comme ça permet au besoin d'avoir une certaine redondance des services en les interconnectant entre nous pour profiter un peu des avantages de chacun.
D'accord, ben on espère prendre de vos nouvelles le mois prochain. N'est-ce pas?
Ouais, pourquoi pas?
Pas de souci.
Bon, merci beaucoup, Chine et Duponin. Nous, du coup, on va arrêter là. C'était une émission très très courte. On se retrouvera au mois de février, toujours chez Aquilonet. Cette fois-ci, ça sera le jeudi 7 février. Non, le 14, pardon. Le jeudi 14 février. Toujours en direct. On espère pouvoir avoir enfin la fin de notre matériel. C'est un peu plus sympathique d'avoir les retours casques pour faire une émission de radio. Et un programme un peu plus consistant qui tiendra cette fois-ci sur une heure. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et encore bonne année 2019 à tous.